Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Good evening business, l'invité.
On va parler plastique, c'est le thème de la semaine.
Et oui, Guillaume, en effet, puisque pendant 5 jours, eh bien, Paris accueille une grande session de discussion pour tenter d'avancer sur un traité qui est censé mettre fin à la pollution plastique. Et on en parle tout de suite avec Rosalie Mann, qui a fondé No More Plastic Foundation. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, je viens de le dire, c'est 175 pays qui sont représentés au siège de l'UNESCO qui se donnent rendez-vous à Paris. Rosalie Mann, dites-nous, parce qu'il y a un an, la communauté internationale, elle s'était fixée l'objectif d'élaborer un traité d'ici 2024. On sait que parmi ces 175 pays, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, notamment sur les modalités. Est-ce que ça vous semble être un objectif tenable quand même ?
Ah oui, oui, tout à fait. J'ai grand espoir que le traité sera historique, mais il faut qu'on attaque le sujet sur le bon angle. C'est-à-dire que souvent, il y a des idées préconçues sur le plastique. Les gens pensent que la pollution plastique commence au moment du déchet, mais c'est une idée préconçue, puisqu'en fait, la pollution plastique commence dès sa création et tout au long de son cycle de vie. Donc, il faut absolument comprendre ça pour résoudre la pollution plastique. C'est-à-dire que le plastique génère des microparticules et des nanoparticules tout au long de son cycle de vie. Mmh. Donc, je vais vous donner un exemple assez précis. On fait tous
Allez-y, concret.
Et on a, chaque fois qu'on court avec des baskets en semelles en plastique, eh bien, on va, avec l'abrasion de ces semelles sur le sol, créer des microparticules et des nanoparticules qui vont aller dans le sol, dans l'air, puis finir dans la mer et l'océan.
Il y a un chiffre impressionnant, vous parlez de la production plastique, on produit, je crois, vous me confirmez, le chiffre de 460 millions de tonnes aujourd'hui de plastique, on a doublé en 20 ans, et les projections nous disent que si on ne fait rien, ça va être un chiffre qui triplera d'ici 2060.
Tout à
fait. Je voulais axer une question sur le recyclage, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 15% du plastique seulement est recyclé. Vous dites
alors 9%.
Pas, 9%. Mmh. Dites pas qu'à ce... Il y a toute une industrie encore à inventer en matière de recyclage du plastique, aujourd'hui, à l'échelle planétaire, finalement.
Il faut surtout interdire le recyclage du plastique. Arrêter avec ce recyclage.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que c'est une hérésie, un non-sens sanitaire. Quand vous recyclez le plastique, vous recyclez un matériau toxique qui crée et génère toujours des microparticules de plastique. Aujourd'hui, ces microparticules sont dans notre sang, dans notre cerveau, dans les fœtus, dans le lait maternel, et ils génèrent des maladies et des pathologies très graves, comme le cancer. On a de plus en plus d'enfants malades du cancer à cause de l'environnement, dont les microparticules qui sont dans l'air, qu'on respire. Là, pendant qu'on parle, on en respire. Et c'est un sujet qu'il faut absolument que les gouvernements prennent dans sa vraie mesure. Et c'est pour cette raison-là que nous avons lancé un manifeste qui est présent sur notre site internet pour que chaque citoyen comprenne l'importance de cesser avec ce recyclage de plastique qui est une fausse bonne solution.
Parce que ce que vous êtes en train de nous dire ce soir, c'est que quand on achète des contenants en plastique recyclé, on pense bien faire, le consommateur pense bien faire.
Tout à fait.
Parce que, on pense évidemment que ça a une meilleure empreinte carbone et...
empreinte carbone, oui, mais pas une meilleure empreinte plastique.
Voilà, mais attention. En revanche, ce que vous dites, c'est que ça a des conséquences beaucoup plus graves sur notre corps.
Tout à fait, sur notre santé. Alors, c'est vrai qu'on entend parler du vaccin contre le cancer, etc., mais on n'y est pas. Et je peux vous assurer que quand vous avez quelqu'un, un proche qui a le cancer, le vaccin, c'est... Je le souhaite à personne. Enfin, je veux dire, la maladie, c'est quand même très grave.
Mais alors, donc, attendez, parce qu'on comprenne bien.
Des maladies, c'est quand même
bien sûr.
Pas un avenir
bien sûr.
Pour nos enfants.
Mais donc, alors, par exemple, un pot de yaourt qui est un pot de yaourt en plastique recyclé va créer plus de microparticules parce que le plastique est de moins bonne qualité, c'est ça ?
Déjà, et aussi parce que ce plastique, il est fait à base d'autres plastiques qui ont tous des produits toxiques et des perturbateurs endocriniens dedans. Et quand vous le recyclez, ça reste... En fait, c'est du poison recyclé, si vous voulez. Mais c'est rien d'autre. Donc aujourd'hui, il faut absolument... Nous, on demande plusieurs choses. La première, c'est que les industries qui utilisent du plastique ou du plastique recyclé aient interdiction de mentionner qu'ils sont éco-responsables ou qu'ils vont sauver la planète, etc., etc. Parce que c'est pernicieux de faire croire au public qu'en utilisant du plastique recyclé, ils font du bien pour leur santé ou pour la planète. C'est totalement faux.
Est-ce qu'un des objectifs de ce texte, c'est pas déjà d'essayer de restreindre, ne serait-ce que l'usage des plastiques qui sont à usage unique, qui représentent, je crois, 40% de la production. Est-ce que ça serait pas déjà une avancée majeure, à défaut d'éradiquer tout le plastique présent sur Terre, finalement?
Le plastique, les
est-ce
deux
industries... Est-ce que ce serait un bon intermédiaire?
Ce serait un bon intermédiaire, mais ce n'est pas suffisant, tout simplement parce que le plastique, vous en avez partout. Vous en avez dans vos vêtements, dans les textiles. Les deux industries qui polluent le plus sont aujourd'hui les emballages et aussi les textiles. Et si ces deux industries-là, par exemple, n'utilisaient plus de plastique, on réglerait déjà plus de 50% du problème. Donc, si on veut vraiment agir, c'est sur ces deux industries-là en priorité. Ensuite, il y a quand même du plastique dans énormément de produits qui créent des maladies directement aux femmes, notamment l'endométriose, les cancers du côlon, l'infertilité, qui sont les tampons et les serviettes hygiéniques. Mmh. Comment se fait-il qu'on vende ce type de produit à des femmes au moment où elles sont le plus vulnérables? Parce qu'en fait, une femme est beaucoup plus vulnérable à la pollution plastique et microplastique, donc qui est une pollution invisible. Il faut savoir que la pollution plastique, c'est une pollution invisible avant tout. Oui. Et cette pollution, eh bien, en fait, la femme va la subir davantage à des moments clés de sa vie, qui sont la puberté, la menstruation, la grossesse, la lactation et la ménopause. Donc ça veut dire plus de 50% de la vie d'une femme.
Vous dites donc énorme décalage entre le discours des industriels et la réalité, finalement.
Tout à fait, et des gouvernements aussi, malheureusement, parce que quand j'entends notre gouvernement dire l'objectif de 100% de plastique recyclé, mais c'est une hérésie et un non-sens sanitaire. Il faut aujourd'hui connaître le dossier. On ne peut pas accueillir un traité international contre la pollution plastique sans comprendre les enjeux qui l'en retournent et la réalité du problème du plastique dans sa globalité.
Et en même temps, Rosalie Mann, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau qui nous disent on a remplacé le verre notamment par le plastique parce que c'est moins lourd et donc on a une meilleure empreinte carbone et on pollue moins. Alors, donc c'est soit on se bat pour l'environnement, soit on se bat pour la santé.
Non. Il faut arrêter d'opposer l'un à l'autre, tout comme il faut arrêter d'opposer l'écologie à l'économie. Moi, je pense que ça peut aller ensemble. Et tout simplement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on produit à peu près plus de 460 millions de tonnes de plastique. On nous annonce 600 millions de tonnes en 2030. 2030, c'est demain. Et en fait, c'est très simple. Si on produit un matériau de cette quantité-là, vous comprenez bien qu'il est très rentable. Mais n'importe quel matériau qu'on produirait dans ces quantités-là serait rentable. Donc c'est pour ça que ce traité international, on attend des mesures courageuses, ambitieuses et historiques pour taxer ce matériau, pour que d'autres industries qui existent, comme le verre, par exemple, vous parliez du verre, c'est très intéressant. Le verre, aujourd'hui, on est capable d'en faire du verre léger et incassable. Sauf que les budgets pour mettre en place ces matériaux dont accessibles au public, etc., on ne met pas l'argent pour investir là-dedans. Donc c'est un secteur qui est complètement abandonné, en fait, et on privilégie toujours le plastique recyclé alors que ce n'est pas une solution.
Et on le disait en introduction, comment on va se mettre d'accord à 175? Oui. C'est le grand débat du moment. Est-ce qu'il faut un traité sous le signe de la contrainte ou sous le signe du volontariat? Parce qu'on sent bien qu'il y a des dissensions. Tout le monde ne veut pas forcément d'un texte contraignant. Producteurs d'hydrocarbures, notamment, à partir duquel sont fabriqués les grands nombres des plastiques. Comment est-ce qu'on se met d'accord à 175?
En fait, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que finalement, on a l'Europe qui est pour des mesures coercitives. Oui. Et de l'autre côté, on a les États-Unis qui, eux, veulent plutôt des mesures volontaires que des mesures coercitives.
Et les producteurs de pétrole, évidemment.
Moi, je pense qu'il faut des mesures contraignante et on va forcément y arriver qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, c'est notre santé, c'est l'humanité qui est en jeu parce que quand on parle d'infertilité, je suis désolée, je vois pas comment ça peut pas concerner tout le monde. Et je pense, moi je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui, une fois que je leur explique la situation, comprennent très très bien qu'en fait l'enjeu est très important et très grave.
On peut être qu'ils font fausse route, c'est ça que
ils
vous
font fausse route parce qu'ils sont mal conseillés, parce que le lobby du plastique est très puissant, tout comme le lobby de la cigarette l'était un temps. On est là justement pour ça. On a lancé un manifeste qui est présent sur notre site internet. On appelle tous les citoyens à la signer. C'est un manifeste international qui est soutenu par Jane Fonda, Jeremy
Irons. On retrouve où, Rosalie Mann ?
Sur notre site internet, nomoreplastique.co. C'est un sujet international qui concerne toutes les nationalités, tout le monde en fait. Donc c'est important qu'aujourd'hui, on prenne les mesures qu'il faut. Alors l'idée, c'est pas de faire peur aux gens, etc. C'est plutôt de conscientiser les gens. Ouais. C'est-à-dire qu'on soit des humains éco-conscients de ce qu'il en retourne.
Et de partager les solutions aussi.
Et de partager les solutions. Et l'écologie, c'est pas un parti politique, c'est pas une religion, c'est vraiment la vie en fait. Et ça concerne absolument tout le monde.
Et oui, voilà. Puisque le plastique, on le respire, on le mange et on le boit.
Absolument. Signature de l'accord sous l'égide des Nations Unies, espérée, je dis bien espérée, au printemps 2025 en Équateur. L'idée, c'est de se mettre d'accord fin 2024 et de le signer en 2025 en Équateur.
Absolument.
Merci beaucoup, Rosalie Mann. Merci de passer nous voir ce soir, la fondatrice de No More Plastic, la fondation No More Plastic. Merci beaucoup d'être passée nous voir ce soir sur BFM Business.